Eh ben, bonjour à tous. Pour commencer, en fait, on va juste faire un petit point de qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière soirée qu'on avait faite en mars et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau, en fait, dans tout ça? Alors, juste pour commencer, on va juste voir un petit peu ChatGPT, où est-ce qu'on en est et déjà d'où est-ce qu'on vient. Alors, pour rappel, GPT, le modèle initial, un, qui s'appelait pas un d'ailleurs pour le coup, il date quand même de 2018. Donc c'est pas tout récent, ça fait longtemps qu'OpenAI travaille dessus, c'est pas quelque chose qu'ils ont sorti du chapeau l'année dernière. Et il avait, comme vous pouvez voir, 100 millions de paramètres. Grosso modo, plus vous mettez des paramètres et plus votre modèle est censé être puissant. Voilà, donc il y a une sorte de rapport puissance-nombre de paramètres. Donc celui-là était plutôt privé parce que ça marchait pas des masses en fait. Hein. Faut reconnaître ce qui est, c'était pas tip-top. 2019, l'année suivante, il passe à 1,5 milliard de paramètres. GPT-2, GPT-2. Et ce coup-ci, GPT arrive à faire des phrases qui se tiennent. On arrive à avoir quelque chose qui peut répondre à des questions, mais il répond pas toujours d'une manière très polie, très fiable et très, on va dire, politiquement correcte. Donc GPT-2 n'est pas ouvert au public. C'est réservé à un nombre restreint de personnes qui ont été validées par OpenAI, comme quoi ils diront pas de mal de la société avant, enfin ou équivalent, avant de pouvoir tester le modèle, mais qui n'est pas rendu public parce qu'il n'est pas performant suffisamment. Ensuite, GPT-3, on passe à 175 milliards de paramètres, parce que tant qu'à faire, autant multiplier par beaucoup à chaque passage. Donc on multiplie par 100 le nombre de paramètres. 2020, et on obtient des choses qui sont intéressantes. Alors, il sait pas bien répondre à des questions, il n'est pas vraiment fait pour ça, mais il arrive à créer du texte qui tient la route ce coup-ci, mais il a encore le problème de pas toujours être très politiquement correct, et du coup, il a quand même quelques particularités qui font qu'on ne peut pas le mettre dans les mains de tout le monde. Donc, on est obligé d'attendre 2022, novembre 2022, c'est la sortie de ChatGPT qui tourne avec GPT 3.5. Donc la version 3.5, c'est une version qui a été un petit peu adaptée pour répondre à des questions et sur laquelle on a rajouté une surcouche qui permet d'être sûr qu'ils ne disent pas n'importe quoi éthiquement parlant. Donc c'est là où il y a eu un gros scandale parce qu'ils ont payé des gens au Kenya pour labelliser et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est éthique, ça l'est pas, ça t'as le droit de le dire, ça t'as pas le droit de le dire et ainsi de suite. Donc voilà. Et puis 2023, mars 2023, juste après notre soirée. Ils ont décidé de sortir GPT-4, qui, alors, GPT-4, on connaît absolument rien de lui à peu près. On suppose qu'il a environ 1 000 milliards de paramètres, mais on n'a ni validation, ni contre-indication d'OpenAI qui laisse planer un gros doute sur comment ça fonctionne dedans. Voilà. Donc ça marche, mais on ne sait pas trop exactement ce qu'il y a dedans. C'est encore plus sombre qu'avant. Donc là, on suppose, et qui est accessible pour tous les utilisateurs payants de GPT, de ChatGPT. Donc vous pouvez avoir l'utilisation de GPT-4 si vous êtes d'accord pour payer. Le premier gros fait qu'il y a eu, c'est que Microsoft a tout de suite senti quand même le truc intéressant. Donc ils ont décidé de tout de suite mettre de l'argent sur la table parce qu'ils se sont dit ça va servir. Donc ça sort en novembre. Là, si vous regardez l'article, la date qui est dessus, on est au 24 janvier. Donc c'est à peine 2 mois plus tard de la sortie, Microsoft met 10 milliards sur la table pour avoir un accord avec OpenAI pour pouvoir utiliser ChatGPT dans ses applications. Donc vous en avez entendu parler, ça s'appellera Copilot. À cette époque-là, ils ont juste décidé de mettre un petit peu ce côté-là. Bien évidemment, ce n'est pas un rachat parce que certaines personnes me disent oui, mais OpenAI, ça appartient à Microsoft. Non, ça n'appartient pas à Microsoft, c'est juste que Microsoft a mis de l'argent dessus pour pouvoir utiliser les modèles d'OpenAI. Deuxième fait super marquant, la super soirée, dira ChatGPT numéro 1 quand même, c'était important de le rappeler, qui avait lieu le 16 mars. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous y étiez. Est-ce que avec les petits pouces, vous pouvez dire qui était là la première soirée? Avec un petit pouce vert si vous étiez là. Ah, on est à moite-moite aussi. Voilà. Ah bah, dommage pour ceux qui n'étaient pas là. Heureusement que je fais le rappel de ce qui s'est passé. Mars, toujours, juste après la semaine suivante, un bug. Là, on se rend compte qu'en fait, il y a peut-être des problèmes de données personnelles et de choses comme ça, parce qu'en fait, on voyait aléatoirement, potentiellement, les historiques d'autres personnes avec ChatGPT. C'est un petit peu embêtant, en fait, quand même, enfin léger. Et les gens ont commencé à se poser la question, mais au fait, Ce qu'on met dans les prompts, ça va où? Et c'est utilisé comment? Et on n'a toujours pas de vraie de réponse, à part qu'OpenAI a le droit de faire tout ce que vous voulez, sauf si vous êtes sur les versions payantes entreprises, puisque les versions payantes entreprises, on sait que c'est privé et que les données ne seront pas utilisées. Pour le reste, ils se laissent le droit d'utiliser absolument tout ce que vous tapez dans vos prompts. Donc ne mettez pas des données personnelles, s'il vous plaît. Ça évitera que ça arrive dans les prochains modèles d'apprentissage et que dans la prochaine version, dans le GPT-5, il y ait les données que vous ayez tapées. Voilà. Du coup, réaction à ça, il y a eu une première réaction tout de suite aussi, 30 mars, on met en pause, bien évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens ont dit, oulala, là là, ça devient dangereux ces trucs, on va mettre en pause pendant 6 mois, ça serait cool. Bizarrement, ce qu'on demandait de mettre en pause, c'est les concurrents. Et bizarrement, 6 mois, c'est à peu près le délai de retard qu'ils avaient estimé sur OpenAI. Donc on leur a dit, non, mais en fait, vous n'avez pas le droit d'aller plus loin, vous, mais nous, on aimerait bien continuer à avancer pendant 6 mois, s'il vous plaît. Et OpenAI a fait, ben non, en fait, non, juste non. Voilà. Bon, ils ont tenté, ils ont essayé de faire peur aussi en disant, oh là là, mais c'est la fin de l'humanité, ChatGPT. Oui, bon, d'accord. On en est encore loin, mais bon, voilà, c'était bien tenté. L'Italie, avril, décide de couper ChatGPT dans tout le pays. Pourquoi? Ben, non-respect de tout ce qui est RGPD, enfin, droit privé des données, et ainsi de suite. Ils se sont dit, ben, attendez, là, vous ne voulez pas vous mettre aux normes, ben, on bloque tout. Et donc, l'Italie n'a pas eu ChatGPT pendant un certain délai. OpenAI a finalement dit que peut-être qu'ils allaient faire des efforts. Et du coup, ça a été réouvert il n'y a pas très longtemps. Donc, vous pouvez de nouveau utiliser ChatGPT en Italie, mais ça a été bloqué pendant un certain temps, histoire de faire une sorte de bras de fer, en gros, entre OpenAI et l'Italie sur ce respect des données personnelles. En particulier, bah, c'est de pouvoir accéder aux données qui vous concernent dans la base d'apprentissage, par exemple, des choses de ce type-là, ou de pouvoir demander à être supprimé de la base d'apprentissage. C'est pas encore parfait, c'est pas encore tout résolu, mais OpenAI s'engage à avancer dans la bonne direction pour la suite. À voir ce que ça va donner réellement. Microsoft, eux, ils ont continué d'avancer. Donc là, on passe au 21 septembre. Donc c'était il y a 10 jours à peu près, quelque chose comme ça, une quinzaine de jours. Ils ont annoncé, ça y est, Copilot est disponible. Donc si vous êtes dans certaines entreprises qui ont payé pour, vous pouvez commencer à avoir accès à Copilot, qui est donc intégré dans les applications Office, grâce aux 10 milliards qui ont été versés quelques mois plus tôt par Microsoft. À OpenAI. Voilà, donc ça y est, on va pouvoir utiliser ChatGPT absolument partout dans toutes nos applications habituelles. Les autres, bien évidemment, vous vous doutez bien qu'ils ne se tournent pas les pouces. Donc Amazon, de leur côté, ils ont fait, ouh, c'est pas mal comme technique, on va faire pareil. Ils ont investi 4 milliards, pas 10, mais 4. Et ils n'ont pas choisi OpenAI, ils ont choisi Anthropic. Anthropic, c'est ceux qui font Claude, dont on a vu le nom tout à l'heure. Et ils ont dit, bah, nous, on va faire un petit peu pareil. Donc, ils ont proposé un service qui s'appelle Bedrock, qui a été ouvert à la disponibilité générale du public en preview la semaine dernière et qui propose l'utilisation de Claude. Donc, vous pouvez créer des applications avec les briques AWS classiques et y intégrer Claude au milieu de tout ça. C'est pas le seul modèle qui est proposé, mais c'est un des modèles qui est proposé dans AWS grâce à cet accord qu'ils ont fait. Donc tous essayent de s'y mettre et ceux qui n'avaient pas des modèles maison, bah, en fait, tout simplement, ils essayent de payer pour avoir le droit d'utiliser les modèles des autres. Voilà. Et puis ChatGPT, là, vous avez dû entendre parler des dernières nouveautés, il n'y a pas très longtemps non plus, de la semaine dernière, où ça y est, ChatGPT va pouvoir travailler sur des images, donc vous pouvez prendre des photos et lui indiquer ce que vous cherchez. Il va pouvoir vous entendre et parler parce que vous allez pouvoir discuter avec et pas avoir à taper avec vos petits doigts. Vous allez pouvoir directement lui dire ChatGPT comme Siri ou Alexa. Vous allez pouvoir y accéder de la même façon. Et puis, il va pouvoir accéder à Internet aussi. Ce qui va lui permettre de ne plus être bloqué à 2022, puisque actuellement, la dernière version est limitée à janvier 2022 au niveau de ses connaissances. Donc, ça enlève tout 2023, et pas tout 2022 et tout 2023. Donc, c'est un petit peu embêtant si vous posez des questions d'actualité. Et donc, du coup, maintenant, il saurait à peu près faire n'importe quoi. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le seul. Tout à l'heure, on vous a demandé si vous étiez capable d'en citer trois, quels que soient les générateurs. Là, c'est le début du tableau, en fait. C'est-à-dire que le tableau, il fait 5 fois ça. Et ça, ce ne sont que des modèles qui sont open. Donc rien que les open LLM, il y en a 5 fois ce tableau-là. Donc évidemment, ça ne rentrait pas tout. Donc vous voyez qu'il y en a plein, 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 qui font plus ou moins de paramètres, qui ont différentes dates, qui ont différentes licences d'utilisation. Autrement dit, personne ne connaît tous les modèles qui existent. Je suis surprise des fois, on me dit, tiens, t'as testé tel modèle? Non, je ne connais pas. Je n'ai pas regardé. Je ne connais pas tous les modèles qui existent. Et en fait, si vous faites des benchmarks actuellement, si vous faites des POC avec des modèles, ça bouge tellement vite que dites-vous que ce n'est pas parce que le modèle, il n'est pas parfait aujourd'hui que dans 6 mois, il n'y en a pas un qui fera ce que vous voulez faire, en fait. Parce que ça peut évoluer très, très, très vite dans ce domaine-là. Et je le vois avec certains clients, on évite de faire des benchmarks. Parce que se dire, on va benchmarker tous les modèles, déjà, il y en a trop. Et en plus, on sait que dans 6 mois, notre benchmark, on peut le jeter à la poubelle et tout recommencer, en fait. Donc, l'idée, c'est juste, vous faites un POC avec un modèle qui a l'air de marcher. Et si ça a l'air de marcher, à ce moment-là, vous vous poserez la question au moment de l'industrialisation de quel modèle vous prendrez. Et faites en sorte d'avoir une architecture qui vous permettra facilement de changer le back-end, c'est-à-dire le modèle que vous appellerez, parce que vous aurez besoin de vous adapter à ce qui sera sorti à ce moment-là. Et peut-être que ça sera, je ne sais pas comment il s'appellera à ce moment-là, T1000 ou je ne sais trop quoi. Donc voilà. Et puis, dernière petite news qui a été publiée hier, si vous voulez devenir riche, visiblement, ChatGPT, c'est un bon plan, puisque il y a quelqu'un qui a lancé une crypto-monnaie grâce à ChatGPT et qui s'est fait plusieurs milliards de dollars en 24 heures, millions, pardon, 13 millions de dollars en 24 heures. Donc, c'est pas mal. Donc, finalement, faut peut-être réfléchir à ça. Voilà. Alors, la crypto-monnaie, c'est fait, mais il y a sûrement d'autres possibilités si vous voulez vous enrichir grâce à ChatGPT. Donc j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être le moment de réfléchir à ça. Ou demander à ChatGPT comment vous enrichir avec ChatGPT, on ne sait jamais. Et comme je disais, c'est que le début. Le grand public a pris en main un petit peu tout ça. Maintenant, à peu près tout le monde sait s'en servir ou s'en est servi au moins une fois. Quand vous parlez aux jeunes, ils s'en servent tous. Dans les écoles, je donne aussi des cours de temps en temps en post-bac. Et à chaque fois que je demande qui a déjà utilisé ChatGPT, tout le monde lève la main, en fait. Ils l'utilisent tous, voire ils l'utilisent tous les jours. Perso, j'utilise ChatGPT tous les jours, quasiment, dans mon travail. C'est un petit compagnon qui m'aide et qui m'aide à trouver des idées. Je lui demande pas de me chercher des infos, pour ça j'ai Google. Mais par contre, des fois, quand je suis un peu à court d'idées, ben, un petit coup de ChatGPT, ça m'aide à repartir et à développer mes idées. Voilà. Donc, il y a d'autres applications et justement, je pense qu'on va en parler maintenant.
Bonsoir à tous. C'est toujours un grand plaisir de venir aux soirées de la DIRA parce qu'il y a toujours salle comble. Et puis moi, ça me permet de revenir dans ma région à moi, et de quitter le Paris. Il faisait 3 degrés ce matin chez moi à Paris. Voilà, juste comme ça. Alors, j'ai pas mis de slide. J'ai décidé de la faire complètement ouverte ce soir. Alors, on va déjà un peu parler de Dell, juste. Comment Dell peut vous aider sur l'IA et l'IA générative? Alors, je vais la faire très, très rapidement. Aujourd'hui, pour faire de l'IA et l'IA générative, il vous faut globalement 3 grands types de matériel. Il vous faut des stations de travail au moment de travailler sur des modèles de données et de faire le tri. Dell est leader mondial sur les stations de travail. Il vous faut des serveurs puissants dans lesquels vous pouvez potentiellement mettre un certain nombre de cartes de calcul. Alors, ces GPU, et aujourd'hui, on ne va pas faire l'offense de ne pas parler de Nvidia. Nvidia a une part de marché sur l'intelligence artificielle de 80%, donc il y a un énorme partenariat entre Dell et Nvidia. Donc, on est numéro un sur le marché de ces serveurs, et aujourd'hui, on dispose des serveurs les plus puissants du marché et ceux qui acceptent le plus de cartes GPU de Nvidia. Et puis, il vous faut bien évidemment des moyens de stockage pour stocker des données principalement non structurées. Merci. Ah, ben voilà, ça va beaucoup mieux. Et là encore, Dell est numéro un sur ce marché du stockage non structuré. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas là ce soir pour vous faire de la vente de Dell Technologies. Il fallait que je coche la case. J'ai coché la case. Merci pour votre patience. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer quand même à la partie la plus intéressante. On vient de voir un certain nombre de cas d'utilisation d'IA générative dans le monde du grand public, puisque ChatGPT, c'est principalement des utilisations grand public. Moi, je vais partager avec vous ce soir, tout à l'heure, quand la question a été posée, est-ce que il y a de l'utilisation d'IA et d'IA générative dans votre société? Bah, tout à l'heure, moi, j'ai donné un pouce vert parce que effectivement, on a déjà de multiples exemples d'utilisation d'IA et d'IA générative au sein de Dell Technologies. Je vais vous décrire deux choses. D'une part, une utilisation interne et d'autre part, une utilisation interne basée sur un futur produit. Premièrement, l'utilisation interne. Comme toute société commerciale, Dell Technologies gère un certain nombre d'opportunités, hein, on appelle ça des opportunités, donc les deals sur lesquels nos commerciaux travaillent, et on a pour ça un CRM, on utilise Salesforce.com hein, comme CRM, on était la première grande entreprise à oser utiliser Salesforce.com. Donc ça, c'est le système qui nous permet de gérer les opportunités. Les opportunités, en fait, quand on ne fait que les gérer d'une manière globale, on va dire que le taux de succès et le taux de transformation de ces opportunités, il est relativement faible. C'est-à-dire qu'on détecte une opportunité, typiquement une soirée comme celle-là, souvent il y a des questionnaires à remplir. Vous remplissez le questionnaire, ça génère une opportunité, vous êtes contacté par la suite par nos équipes commerciales qui vont ou pas travailler sur cette opportunité et la transformer. Il y a des systèmes de qualification des opportunités. Il y a un certain nombre de systèmes qui existent, qui sont globalement, pour les non-instruits, des checklists qui vont vous permettre eh bien, de valider un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a validé que le client avait un budget? Est-ce qu'on a validé quel était le besoin réel du client, etc., etc. Chez Dell Technologies, on utilise deux méthodes de qualification des opportunités différentes. Une pour les deals dits simples, c'est-à-dire les deals transactionnels. Exemple, vous êtes déjà client et vous voulez augmenter la capacité de stockage d'une baie de stockage. Voilà, donc c'est un deal plutôt simple. Et puis, on utilise une autre méthode qui est très utilisée notamment dans et par l'ensemble des fournisseurs IT qui s'appelle MEDIC ou MEDPIC, qui est une méthodologie de qualification d'opportunités qui est issue de chez nos amis de PTC, qui, une fois de plus, est encore aujourd'hui la plus utilisée dans le monde de l'IT. Donc, l'objectif, une fois de plus, de cette méthode de qualification d'opportunités, c'est de garantir que on travaille correctement, qu'on travaille avec méthode et qu'on vient bien recueillir toutes les informations. Et là, du coup, eh bien, on augmente finalement le taux de transformation de ces opportunités pour l'emmener aux environs de 50%. Et puis ensuite arrive dans la planification, puisque on est avant tout un industriel, c'est-à-dire qu'au moment où il faut expliquer à nos usines ou à nos achats ce qu'ils doivent acheter, mettre en œuvre, construire comme matériel pour pouvoir vous les livrer à temps, eh bien il faut qu'on soit juste dans nos productions. Puis on a aussi des actionnaires, hein, et là on parle de prédictions financières, donc c'est extrêmement important d'être juste dans les prédictions. Donc 50%, c'est pas vraiment être super juste dans les prédictions. 50%, c'est pile ou face, hein. C'est-à-dire que je lance la pièce pile ou face, quoique il y a un peu de statistique qui dit que la pièce peut tomber sur la tranche. Je ne sais pas si on a des grands statisticiens, mais la stat existe, d'accord. Un peu comme la roulette, d'accord, où il y a le zéro, d'accord, donc qui est ni noir ni rouge, ni pair ni impair et qui est zéro. Donc là aussi, il y a une stat qui existe sur la roulette avec le zéro. Alors pour ça, on a nos managers. Les managers, eh bien, vont donner un ressenti. Ils vont donc lire chacune de ces checklists qui ont été remplies pour chacune des opportunités et chaque manager va donner un ressenti et va donner un pourcentage de succès sur cette opportunité et puis on consolide tout ça sur les différentes strates de management et c'est comme ça qu'on fait nos prédictions. En faisant ça, basé sur ces méthodologies, basé sur les managers, on atteint 60, 65, parfois 70% de justesse dans les prédictions des managers. Alors, on en était là jusque fin d'année dernière. Et là, on a commencé à mettre en place une intelligence artificielle, pas encore générative. On parlera du génératif plus tard. On a mis l'intelligence artificielle et on lui a fait analyser donc ces sources d'opportunités. Et bien là, le taux de prédiction, il est monté à 80%. Donc à 80%, l'IA va dire, et on va sortir un feu tricolore qui va dire vers l'opportunité rentre. C'est-à-dire qu'avec les informations que j'ai dedans, je peux dire que ça rentre. Rouge, ça rentre pas. Et puis orange, il me manque des choses. Donc là, on est dans la redéfinition de ce qu'on appelle le partenariat homme-machine, qui est finalement aujourd'hui l'essence même, alors on débattra tout à l'heure, mais l'essence même de l'intelligence artificielle qui n'est pas de venir remplacer l'humain, mais d'augmenter le partenariat homme-machine, d'augmenter l'efficacité de l'humain. Donc là, finalement, on met ça à disposition de nos managers qui aujourd'hui, dans le CRM, pour chaque opportunité, ont un feu tricolore, vert, orange, rouge. Donc très concrètement, si je suis manager, le feu est vert, Je vais peut-être regarder pour être au courant dans mon reporting, mais je ne vais pas y passer plus de temps. Orange, je vais travailler avec mon équipe commerciale pour les aider à transformer, à passer de orange à vert. Et puis rouge, c'est perdu. On va peut-être regarder si les informations qui étaient là étaient bonnes et si on peut les transformer ou pas. Mais bah, finalement, le deal, il est perdu. Ça, c'est en train d'être mis en place au moment où on parle. Nos managers ont été formés la semaine dernière et on a des commerciaux Dell dans la salle. Donc, mettez à jour vos médics parce que voilà, ça arrive. Et on va un cran plus loin. J'ai vu, moi, la semaine dernière, le test de la version IA générative. Donc, on va un cran plus loin. Et typiquement, pour un deal qui est en orange ou en rouge, eh bien, l'IA générative va carrément écrire le mail à l'attention de l'équipe commerciale pour dire, voilà, j'ai analysé ton opportunité. Pour moi, bah, je ne suis pas sûr que ça rentre. Je ne sais pas dire. C'est orange. Et donc, voilà ce qu'il faut que tu ailles chercher chez ton client. D'accord? Évidemment, c'était une démo à destination de l'international. Donc, le mail qui est sorti, il est sorti dans un anglais parfait. Bon, j'ai fait mon franchouillard, j'ai levé la main, j'ai dit, vous êtes gentil, le mail, il est en anglais. Tous mes commerciaux ne parlent pas forcément en anglais parfait. Moi, ça me dérange. Pas de problème, c'est français, hein. Translate to French et le mail est sorti dans un français parfait. On avait un allemand, le mail est sorti dans un allemand parfait, etc., etc. Donc voilà aujourd'hui où on en est de la mise en application. Donc aujourd'hui, l'IA, on va dire, pour l'analyse, c'est en route. L'IA générative arrive. On va se laisser un petit trimestre, comme toujours, chez Dell pour tester, valider ça sur un ou deux pays. Et donc l'IA générative est en route, encore une fois, dans l'accompagnement de l'humain pour optimiser l'efficacité de l'humain. Voilà, premier exemple de ce qui se pratique chez Dell Technologies en utilisation au sein de nos équipes, au sein de l'entreprise, pas en termes de produits, de l'IA et de l'IA générative. On va ensuite parler de quelque chose que je vous invite, vous pourrez le googliser, ça s'appelle Clara. Et Clara, c'est quoi? C'est un humain digital. L'humain digital, c'est quelque chose qui arrivera bientôt et qu'on vous proposera bientôt. Donc, on proposera bientôt à nos clients de venir souscrire à un abonnement, à un humain digital qui va rajouter finalement à ce qu'on a vu tout à l'heure comme étant les dernières évolutions de ChatGPT, qui était la voix et la capacité de répondre. On va rajouter une interface humaine et on discute avec Clara. Donc, Clara s'appuie sur des modèles ouverts et j'ai vu plusieurs utilisations de plusieurs modèles. Donc souvent on me dit, bah, alors quel partenariat? Bah, non, on est sur des modèles ouverts et avec plusieurs utilisations. Et l'objectif de Clara, ça va être pour vous clients, au moment où on va vous proposer donc de vous abonner à Clara, de la spécialiser sur un modèle. Alors moi j'ai eu accès à Clara dans un mode complètement ouvert et je me suis amusé à lui poser la question, tiens, quel est le futur de la station de travail ou du poste utilisateur client. Croyez-moi, la réponse qui a été faite m'a quelque peu inquiété sur le métier de certaines personnes chez nous, parce que la réponse était juste parfaite, j'aurais pas fait mieux. Ce qu'on va commercialiser pour vous clients, c'est un Clara spécialisé. Et typiquement, en ce moment même, on teste Clara spécialisé pour de la formation. Là encore, on est sur le partenariat homme-machine. Globalement, chez Dell, nos commerciaux, deux fois par an, passe ce qu'on appelle un endorsement, c'est une sorte d'examen de passage où on va valider leur capacité à transcrire le discours et le discours à jour auprès de nos clients, c'est-à-dire on valide qu'ils font leur métier correctement et qu'ils portent le discours correctement. Quand on fait ça, on fait une simulation de rendez-vous client. Alors évidemment, l'espace-temps, il est restreint parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Et des gens comme moi jouent le rôle du client. C'est pour ça qu'il est important pour moi d'être à votre contact régulièrement. Je joue le rôle du client et puis on a un scénario à dérouler. Et puis à la fin, eh bien, on va donner un certain nombre de recommandations à nos commerciaux pour dire ah, super, tu as très bien réagi, etc. J'ai testé la semaine dernière Clara en mode objection handling. C'est-à-dire qu'on a restreint le champ d'application de Clara. Et elle me dit, voilà, tu vas jouer un commercial. Tu vas jouer, pardon, un client et ben, voilà toutes les objections que tu vas envoyer au commercial dans le dialogue. Et puis par la suite, tu vas analyser la réponse qui a été faite par l'équipe commerciale aux différentes objections que tu lui as données. Alors, ça reste encore un petit peu perfectible. On ne va pas dire que c'est parfait et prêt à être commercialisé, mais ça marche déjà plutôt pas mal. C'est quand même déjà assez impressionnant. Et très franchement, moi, ça va me donner un bol d'oxygène. Parce que bah, on a en France un petit peu plus de 1 000 commerciaux. Donc allez, à 20 minutes, 15 minutes d'entretien, 5 minutes de feedback, enfin, vous voyez un petit peu l'investissement et le temps passé par toutes les équipes formation et toutes les équipes managériales qui, à un moment donné, endossent le rôle du client. Donc voilà typiquement hein, comment on va utiliser ça. Donc l'objectif, hein, ça va être une fois de plus de commercialiser Clara chez vous pour eh bien, la spécialiser sur un certain nombre de besoins et un certain nombre de métiers. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.